L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Philippe Subercase.
À quelques jours des vacances scolaires d'hiver, moment crucial pour les stations de ski, nous allons faire un point sur les nouveautés de la saison d'hiver 2023-2024. Et c'est un plaisir d'accueillir NP. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons Guillaume Roger, directeur opérationnel pour le groupe NP, et puis également Coralie Fontan, chargée de communication pour le groupe NP. Et quel bonheur pour moi et quel plaisir d'accueillir aujourd'hui Arnaud Paul. Vous êtes le responsable départemental du groupe La Dépêche, la Nouvelle République des Pyrénées. Merci d'avoir accepté aussi de venir animer cette émission.
Bonjour et merci de m'accueillir.
C'est une première, je crois.
Oui, c'est une première.
C'est une première.
Je découvre ces magnifiques studios, c'est très bien.
Et puis, c'est pas la première fois que vous faites une émission de radio.
Non, c'est pas la première
fois. Bon, alors vous êtes habitué, c'est parfait. Pour moi, c'est un honneur de vous avoir dans cette émission. On va parler de NP, on le disait, on n'est plus qu'à 15 jours du début des vacances d'hiver, comme on dit, saison cruciale, moment crucial pour vous, NP. Avant de parler de ce que vous allez proposer, on va prendre un petit peu la machine à remonter le temps. Et j'aimerais que vous nous racontiez un peu cette aventure extraordinaire du groupe NP. Comment vous êtes arrivé à fédérer des stations qui, on le disait un peu en préparant, incroyables et un peu, toutes un peu concurrentes. Et comment vous êtes arrivé à fédérer? Comment ça s'est passé pour qu'aujourd'hui, tout le monde travaille ensemble et mutualise les moyens?
Alors, ça a démarré en 2005. C'est une aventure humaine, tout d'abord, puisque c'est l'histoire, en fait, de passionnés, de directeurs de stations de ski qui étaient passionnés, qui étaient déjà habitués à travailler ensemble sur des problématiques non concurrentielles et qui, avec les élus de l'époque, ont décidé de lancer cette association dans un marché du ski qui est relativement complexe. C'est un marché qui est mature. On estime entre 8 et 10% des Français qui skient dans le pays. Et donc, il valait mieux être soudés ensemble pour exister sur ce marché et potentiellement aller chercher aussi de nouveaux skieurs sur d'autres marchés pour faire connaître les Pyrénées.
En deux mots, c'est quoi NP?
Alors NP, c'est un réseau de stations partenaires qui compte 7 domaines skiables, mais aussi, alors on appelle ça maintenant des stations de montagne plutôt que des domaines skiables, mais aussi 2 sites touristiques, donc le Pic du Midi et Côte-Répond d'Espagne, et qui se sont associés pour mutualiser tout un tas de choses. Donc ça va des achats à la formation du personnel en passant par la commercialisation et la communication autour d'une marque qui est NP, qui veut dire Nouvelle-Pyrénées.
Alors, NP, au départ, on connaissait que NP, et puis est arrivé la Compagnie des Pyrénées, et puis la région Occitanie qui a mis aussi des billes dedans. Ça prend un essor considérable.
Oui, c'est vrai que depuis entre 2005 et 2019, à peu près, on a fait ce qu'on a fait, donc on a mutualisé et faire émerger cette marque au niveau du réseau NP. Et puis la région Occitanie, effectivement, nous a identifié comme étant un véhicule potentiel pour faire la même chose sur l'ensemble de la chaîne. Et donc, ils ont créé une nouvelle société qui s'appelle la Compagnie des Pyrénées, qui a 3 filiales, donc une filiale commerciale qui est NP, une foncière pour toutes les problématiques d'hébergement, parce que l'hébergement, c'est le poumon des Pyrénées. Si on n'a pas d'hébergement à proposer aux clients, c'est compliqué de les faire venir. Et une filiale qui est capable de prendre des participations dans les stations de montagne. C'est le cas pour le Grand Tourmalet. La Compagnie des Pyrénées a 25% de participation dans cette station. Et l'idée de la région, c'était de faire ça sur l'ensemble de la chaîne. Elle a été rejointe notamment par la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, mais aussi par des départements. Donc maintenant, on a les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège et les Pyrénées-Orientales qui nous suivent dans cette aventure.
Et donc aujourd'hui, avec la carte que vous mettez en service, nos soucis, en fait, le skieur peut skier sur l'ensemble du versant français des Pyrénées, dans l'ensemble des stations, c'est ça?
C'est ça, effectivement, puisque l'année dernière, nous avons rejoint 6 nouveaux domaines skiables, donc 3 en Ariège, Ax-les-Thermes, Guzet et Mont-Dolm, et 3 dans les PO, donc Portet-Puymorens, Cambre-d'Az et Formiguères. Et maintenant, effectivement, on a 14 stations qui sont dans le produit et nos soucis, et on peut skier, effectivement, d'Andaï à Collioure, en fait, sur tout le massif.
C'est difficile d'aller comme ça, de continuer à grignoter, à aller voir des stations et qu'elles viennent vous retrouver. Difficile. Là, vous êtes parti vers l'est de la chaîne des Pyrénées.
Ouais, alors là, on couvre quand même une belle partie du massif. Hein, 14 je crois qu'il y a 28 stations, tout type de stations confondues sur le massif. Écoutez, non, c'est pas difficile. Si on arrive à démontrer qu'on va... séduire de nouveaux clients et faire de nouvelles choses, pouvoir travailler tous ensemble sur des problématiques comme la diversification, etc. Donc c'est pas forcément compliqué.
Siège social à Lourdes, pourquoi Lourdes?
Alors pourquoi Lourdes ? On a fait nos débuts, on était hébergé par les Pyrénées-Atlantiques, donc Gourette et la Pierre-Saint-Martin à côté d'Izeste. Et petit à petit, on s'est dit qu'il fallait se recentrer par rapport justement à cette extension. Et donc Lourdes était un endroit idéal, puisque c'était à équidistance à peu près de Peyragudes et de la Pierre-Saint-Martin, qui font partie du réseau historique. Donc voilà, on est à Lourdes, au cœur des Pyrénées.
Cœur des Pyrénées, exactement. On est à quelques jours, hein, je le disais, de ce rush, ou moment attendu. Vous avez quand même des chiffres qui sont assez encourageants, puisque les vacances de Noël, malgré qu'il faisait quand même relativement doux et bon, vous avez quand même fait des chiffres dans les stations qui étaient assez bons. Même voire très bon.
Oui, les vacances de Noël ont été très bonnes, effectivement. On a fait 300 000 journées ski sur l'ensemble du réseau NPI. Ça représente une progression de 42% par rapport à Noël dernier et de plus 5% par rapport à la moyenne des trois dernières saisons. Donc on était relativement contents. Et voilà, les vacances de Noël, ce n'est pas forcément des vacances de pur skieur. On vient à Noël en famille, on vient faire aussi d'autres activités. D'ailleurs, on l'a constaté au niveau des passages piétons, puisqu'on a une progression du nombre de piétons dans nos stations qui vont peut-être prendre un télésiège pour aller à un restaurant d'altitude, visiter le Pic du Midi, etc. Mais effectivement, ce sont des très bonnes vacances. Et on a fait aussi deux bons week-ends après les vacances, puisque le week-end dernier, par exemple, on a accueilli 56 000 skieurs sur nos stations, en progression aussi par rapport à l'hiver dernier et celui d'avant, donc on est plutôt satisfait. Ça prouve que quand les conditions sont là, notamment le beau temps et la neige, les skieurs, ils sont toujours passionnés, ils viennent skier.
Avec une vraie problématique sur l'enneigement, puisque vous avez eu une chute au bon moment pour ces vacances, mais finalement, il n'y a pas eu pléthore de neige. Comment vous gérez, comment les stations aujourd'hui gèrent cette question de la neige ? Il y a beaucoup de technicité, il y a beaucoup de technique.
Effectivement, on se rend compte que de plus en plus, si on n'a pas cette technique dont vous parlez, qui passe par de la formation de conducteurs d'engins de damage, qui sont capables d'aller étaler la neige là où il faut, quand il faut. On a aussi équipé toutes les dameuses de GPS qui permettent de faciliter cette... qui donnent en fait la hauteur de neige à certains endroits pour pas y aller au doigt mouillé et pouvoir aller étaler ça comme il faut. On a aussi investi dans des enneigeurs artificiels. La station de Peyragudes, par exemple, a 75% de son domaine qui est couvert par l'enneigement artificiel, ce qui facilite les choses. On a aussi investi par des choses toutes simples comme des barrières à neige qui permettent de cumuler la neige quand il y a des chutes de neige et pouvoir l'étaler après. Toute cette technicité permet effectivement d'assurer ce ski, parce que cette saison, on a eu deux chutes de neige, en fait, hein, une en novembre et une en janvier. Heureusement, on a eu des périodes de froid qui ont permis d'utiliser l'enneigement artificiel. Mais si on n'a pas ça, c'est vrai que ça devient compliqué.
Et aujourd'hui, les niveaux culteurs, c'est vraiment les magiciens, là, c'est ceux qui vous sauvent.
Ouais, c'est des magiciens, ils font un travail exceptionnel. Les dameurs et les niveaux culteurs, hein, c'est un binôme important dans une station. Ils font un travail phénoménal pour pouvoir offrir des conditions de ski aux skieurs. Aujourd'hui, on a dans les stations des Hautes-Pyrénées entre 60 et 85% des domaines ouverts. Il faut savoir, malgré ces chaleurs qu'il fait en ce moment. Donc voilà, on peut offrir du ski à nos clients sans honte.
Est-ce qu'on peut dire que la montagne, il y a un effet Covid ? Avant, j'ai l'impression qu'on consommait la montagne l'hiver, station voilà, habituelle, on prenait les forfaits, on faisait du ski, puis l'été on partait du côté de la plage. Et là, on a l'impression que le Covid a mis en avant cet air incroyable qu'est la montagne. Il y avait des gens qui venaient se ressourcer un peu, vivre autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la montagne se réinvente ?
C'est vrai qu'il y a eu cet effet Covid où l'été qui a suivi le Covid, les gens sont sortis, ils avaient besoin de prendre l'air de cette nature, et les Pyrénées sont un terrain idéal pour ça, parce qu'on a vraiment un terrain, alors on s'en rend peut-être pas compte nous parce qu'on vit ici, on est tout le temps dedans, mais on a un terrain de jeu magnifique, quoi. On peut faire de la rando, du VTT, de la balnéo, il y a le Pic du Midi, le Pont d'Espagne, enfin il y a plein de choses à faire, et on l'a senti de plus en plus, l'été prend une place prépondérante. Donc nous, station de montagne, on essaie d'investir pour proposer des activités pour ces gens qui viennent, qui fuient un peu la foule de la plage et qui ont besoin d'air frais.
La montagne donc se réinvente. Vous devez tout le temps trouver des animations, des choses à faire. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent plus que faire du ski. Ils veulent autre chose. Ils veulent aussi qu'on leur propose des animations, des moments un peu en famille. Comment vous organisez tout ça ? Comment ça se passe ?
Alors déjà, on réfléchit. Et le fait d'être ensemble, ça permet aussi de se challenger. On a notamment dans la compagnie des Pyrénées et chez NPI un système qu'on nomme les groupes métiers. En fait, c'est chaque service d'une station, que ce soit, alors ça va des ressources humaines au commercial, en passant par le damage, les pistes, etc., qui se réunissent. En fait, tous les services de chacune des stations NPI se réunissent, surtout à Lourdes, une fois ou deux fois par mois, enfin ça dépend des services, et on réfléchit. Il y a notamment un service qui s'occupe de réfléchir à ça, de brainstormer en fait, pour essayer de proposer d'autres activités à nos clients. Et là, les activités, elles sont pléthores, hein, Coralie, il y a plein de choses à faire.
Oui, et c'est vrai que, par exemple, ce qui peut émaner de ces réflexions, ça va être les offres pour les familles, où en fait on va développer dans chaque station des systèmes de garderie, de gardiennage, avec des animateurs, avec des family zones aussi. Donc là aussi, vous parliez du hors-ski, ça va être des zones dans lesquelles on peut laisser nos enfants en toute autonomie, ils sont encadrés, ils vont pouvoir s'amuser. On sait que les enfants qui débutent, ils skient en principe une à deux heures, et puis après, bon, ils ont eu leur dose, entre guillemets. Donc l'idée, c'est aussi de leur faire vivre une expérience montagne, voilà, avec des jeux différents. Et puis, c'est vrai que les stations, tous les ans, apportent des animations différentes, que ce soit de la luge, des parcours de randonnée à raquettes, du ski de randonnée également, pour initier les skieurs à cette pratique qui est tout à fait différente, de l'animation biathlon, voilà, on a vraiment tout un tas, de la tyrolienne bien évidemment, ouais. Péragude.
Et donc la montagne devient une destination globale où on peut trouver son activité et s'adapter à chacun.
Finalement, il va y en avoir pour tous, et puis aussi de la détente, parce qu'on a tendance à parler, voilà, de ce qui est tyrolienne, wing snow, tout ce qui est un peu extrême, mais on a aussi envie des fois de juste venir se reposer en montagne, et c'est possible, voilà, avec les restaurants d'altitude où on va pouvoir profiter de la gastronomie locale, et puis voilà, accéder en télécabine à ces vues panoramiques exceptionnelles, et puis aussi la balnéothérapie qui est dans notre histoire.
Est-ce que le Pic du Midi, justement, c'est vraiment un phare et un repère de communication? Est-ce que c'est quelque chose qui est repéré par votre clientèle et qui est quelque chose d'attractif?
Ouais, le Pic du Midi, c'est... Alors, le directeur, des fois, il nous dit c'est la Tour Eiffel des Pyrénées. C'est une belle image.
Ah, mais il aime bien, hein, son Pic du Midi, le directeur.
Il adore, Daniel, le Pic du Midi. Et ce qui est normal, c'est vrai que le Pic du Midi, c'est une attraction phare. Ouais. Aujourd'hui, on peut faire plein de choses quand on est là-haut. Il y a le planétarium, il y a ce ponton dans le vide. Je ne sais pas si vous savez, mais on peut faire de la cascade de glace aussi maintenant au Pic du Midi l'hiver. Et c'est quelque chose qui est organisé. Hein. C'est pas juste quand il y a de la glace, c'est une conduite d'eau qui est réfrigérée, qui permet de s'initier à la cascade de glace. Donc il y a plein de choses à faire là-haut. Il y a un restaurant aussi qui est assez magique. Mmh. On peut y dormir aussi. Et là, il y a un gros projet à l'hôtellerie des Laquais, quelques mètres en dessous. L'idée, c'est de refaire revivre cette mythique hôtellerie des Laquais, avec 19 chambres, je crois, d'hôtellerie type 4 étoiles, qui sera reliée au Pic du Midi par un téléphérique, un petit téléphérique, voilà, pour agrandir encore cette possibilité de faire des choses et du beau tourisme au Pic.
Et ça renforcera l'offre d'hôtellerie et d'hébergement, puisque c'est aussi un point faible souvent pour nombre de stations. Comment vous agissez justement par rapport à ça?
Alors on agit notamment par la filiale qu'on a créée dans la campagne des Pyrénées, qui s'appelle qui est la foncière des Pyrénées, qui permet de venir aider lorsqu'il y a des projets, de compléter un tour de table financier. Et donc on est sur plusieurs projets, notamment au Tourmalet, à la Mougie, avec un hôtel 4 étoiles qui va sortir de terre pour remplacer l'hôtel du Portail, cette hôtellerie des Laquais aussi. Voilà, on essaie de réfléchir, parce qu'on a quand même un problème de foncier aussi dans les Pyrénées, il y a très peu de terrain.
C'est ça.
Donc l'idée, c'est de reprendre des choses existantes, de les rénover et de partir sur une hôtellerie qui correspond aujourd'hui à ce que demande la clientèle, parce que c'est ça notre problème aussi.
Voilà, et au-delà, les locations aussi, il y a une vraie problématique autour de l'état des bâtiments et de leur rénovation thermique notamment. Est-ce que vous pouvez accompagner comme ça ou est-ce que vous êtes soucieux en fait des propriétaires qui peuvent être privés par exemple dans les villages ou dans les stations?
Oui, tout à fait. Alors, on a depuis 2012, on a créé une place de marché. Donc, c'est sur npi.com. On peut réserver l'intégralité des composantes d'un séjour au ski, et dont la partie hébergement privé. Donc, c'est des propriétaires qui sont à Nantes, à Paris, etc., qui peuvent mettre leurs biens en location chez nous, et pas chez des concurrents hollandais et autres. Je ne vais pas les citer ici. Nous, on a des taux de commission très, très faibles, et on a un système d'accompagnement, justement, de ces hébergeurs, notamment à Cotteret, qui a mis un système de labellisation avec les diamants de Cotteret, et en fait, qui incite les propriétaires à rénover leurs biens pour pouvoir leur laisser plus de place après sur notre site internet ou sur leur site internet. Voilà, c'est la récompense un peu pour ça. Et il y a un référent, en fait, dans chacune des stations qui accompagne ces gens-là pour les aider par rapport à ces problématiques de passoires énergétiques et de rénovation nécessaire pour... pour être en phase avec la demande des clients.
Qui dit réservation, comme vous disiez, est-ce que vous allez jusqu'à proposer aux propriétaires de ces biens de gérer carrément leur bien avec les check-in, check-out et ménage?
Alors nous, on n'a pas la brique conciergerie, ouais. On l'a laissée au privé, mais ça a fonctionné puisqu'il y en a de plus en plus qui se sont créés. À la Mongie, je crois qu'il y en a trois, il y en a une à Pyongyang, il y en a un peu partout. Et voilà, c'est le privé qui prend le relais. Alors il y a les agences immobilières aussi, bien entendu, qui peuvent le faire pour les propriétaires, mais il y a aussi des privés qui se sont lancés là-dedans, qui font uniquement de la conciergerie. Nous, on accompagne plutôt au niveau de la distribution, de la mise en avant sur les sites internet, et de les inciter à louer à des skieurs, puisqu'on a un programme de fidélisation par rapport. Plus je loue à des skieurs, plus je gagne des forfaits. En fait, c'est un peu le système. C'est le programme propriétaire qu'on propose sur notre place de marché.
D'accord.
Ouais.
À découvrir aussi sur le site internet. Alors, on parle effectivement, si on résume NPI, c'est souvent réservation de forfaits de ski, mais. En fait, parlons un peu également de ce que vous venez de dire, de l'hébergement, de la restauration, qui est aussi, on a skié la journée, on s'est fait plaisir, mais le soir, on veut se reposer, on veut bien manger. Est-ce que, si c'est quelque chose qui est important pour vous, la restauration, la qualité de l'hébergement, et est-ce que dans les restaurants, vous proposez aussi les produits locaux, faire découvrir nos Pyrénées, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées dans sa globalité, avec les produits locaux. Par exemple, sur les Hautes-Pyrénées, le haricot tarbé, l'AOP de Barège.
La truite. Le nord de Bigorre.
Le nord de Bigorre.
La truite de l'Aubalagnas.
La truite de l'Aubalagnas. Faisons plaisir à Maryse Carrère.
Oui, ça va être via des labels aussi, le label Happy Saveur, par exemple, qu'on retrouve au restaurant de la Laquette. Et comme le disait Guillaume, pour que ça soit pour l'hébergement, finalement, l'idée, c'est ça, en fait, c'est de gagner en qualité, entre guillemets, même si on avait déjà une offre conséquente, mais d'être dans le local, de s'inscrire au mieux pour ce que demandent les clients. Et aujourd'hui, on sait qu'ils sont soucieux de retrouver des produits locaux de qualité, cuisinés sur place, faits maison. Donc ça, c'est ce qui tient à cœur aussi, que ce soit au restaurant La Laquette, au Lys à Cotteret, au Cairn à Gourette. On va retrouver une offre de qualité dans tous les restaurants d'altitude, que ce soit sur du snacking ou du restaurant vraiment où on se pose et on prend du plat au dessert.
Comme le 2877.
Oui,
qui
tout
est
à
le
fait.
Le restaurant du Pic du Midi.
Du Pic du Midi, oui.
Où là, vraiment, c'est un restaurant vraiment classique. Il y a aussi l'offre de snacking, mais de qualité, où on peut vraiment se poser et manger vraiment des produits locaux. Ils ont vraiment travaillé là-dessus de façon très poussée. Ouais.
Du coup, quand on vient faire un forfait aussi, on découvre aussi une région à travers ce séjour.
Exactement, c'est ce qu'on veut. C'est en plus de tous les sites naturels et tous les avantages qu'on a à venir pratiquer les Pyrénées, on a cet avantage-là aussi de pouvoir proposer tout un panel de plats et de mets et de produits locaux. Donc l'idée, c'est de les faire découvrir dans nos restaurants d'altitude.
Ouais.
Est-ce qu'entre le début de la création de NPI et aujourd'hui, il y a eu des changements majeurs, le fait qu'on consomme différemment le ski ou les stations? Qu'est-ce qui a changé?
Ce qui a changé, c'est peut-être la technicité dont on parlait tout à l'heure, qui a permis les stations étaient déjà très professionnelles avant, mais le fait d'être ensemble, en fait, de travailler autour des groupes métiers, de réfléchir ensemble, ça permet de créer une émulation qui, je pense, a fait progresser les stations du réseau NPI en termes de qualité. Alors, on vient d'avoir d'ailleurs de lancer notre label RSE cette année, responsabilité sociale et environnementale, au niveau du groupe Compagnie des Pyrénées, avec toutes les stations. Et ça passe par vraiment des actions très, très concrètes. Et au niveau des clients, parce qu'il y a trois scopes, enfin, le scope client, le scope collaborateur, les gens qui travaillent avec nous tous les jours, et le scope environnement. Et sur le scope client, par exemple, on a un système d'enquête satisfaction qu'on administre tous les ans sur nos domaines, que ce soit en été ou en hiver. Par exemple, l'hiver dernier, on a interrogé 16 000 clients qui vont nous dire ça va pas, ça va, améliorez-le, et ce qui nous permet d'investir là où il faut, quand il faut derrière, donc d'améliorer la qualité de nos services.
Dans les stations, est-ce qu'il y en a qui sont peut-être plus en vogue, moins en vogue? Comment vous faites pour essayer de une qui est peut-être en difficulté, la rebooster?
La rebooster va être reboostée par ce système d'émulation collective.
Ouais.
Un exemple très concret, on a dans les groupes métiers dont je parlais tout à l'heure, il y a un groupe métier qui concerne les responsables de billetterie. Toutes les billetteries de nos stations, elles se regroupent 4 fois par an. Et donc là, c'est l'occasion de dire moi j'ai ça qui marche pas, comment t'as fait pour le faire marcher? Elles s'appellent aussi entre elles. Enfin, voilà,
ça paraît incroyable.
C'est génial.
Des gens qui sont quelque part un peu en concurrence, ouais. Et qui mettent aussi leurs billes dans leur station, parce que NPI n'est pas propriétaire, hein, c'est bien ça, vous n'êtes pas propriétaire des stations, chaque station est vraiment indépendante. Ouais. Et comment on arrive à avoir, ça paraît fou, parce que souvent, voilà, c'est très concurrentiel, voir si on peut piquer des clients à l'autre, voilà, on est content, et là, non, vous nous dites en fait que non, ça va jusqu'au la tarification, on discute, voilà, moi ça marche pas, comment t'as fait, il y a des conseils, ça paraît incroyable.
Ouais, c'est incroyable. Alors au départ, je vous cache pas que ça a été un peu difficile, ouais, hein, comme les premières années, surtout pour la partie commerciale. Mais tout ça s'est dépassé maintenant, et je pense que les stations, les gens qui travaillent dans les stations ont compris que c'était plus avantageux pour tout le monde et que tout le monde avait intérêt d'aller vers ça, quoi.
Ouais. D'ailleurs, votre clientèle qui est équipée de la carte No Souci, elle peut skier en théorie dans toutes les stations. Est-ce qu'elle le fait ?
Oui, elle le fait. On a les chiffres qui le prouvent, puisqu'on a 60% des clients qui vont consommer sur plusieurs stations et 40% qui sont plus monostation. Donc ça prouve que ça marche, et les clients... L'intérêt, en fait, c'est pas de faire en sorte que toutes les stations soient les mêmes, soient homogènes, c'est pas notre intérêt. Chaque station a sa particularité, on en a des familiales, des freerides, des grands skis, des plus naturels. L'idée, c'est de proposer un service homogène, une qualité homogène dans chacune des stations, mais jouer aussi sur la différence de chacune d'entre elles, c'est ça l'intérêt.
On va parler de quelque chose qui fâche souvent, c'est l'environnement. On disait souvent les stations de ski pour fabriquer la neige, pompe sur les nappes phréatiques. Comment ça se passe ?
Est-ce qu'aujourd'hui,
il y a eu vraiment une prise de conscience et du changement là-dessus ?
Oui, il y a eu du changement. Alors déjà, nous, il faut savoir que... On a deux systèmes, en fait. Soit on crée des retenues collinaires pour pouvoir utiliser l'eau qui vient dans ces retenues pour pouvoir l'utiliser pour alimenter les enneigeurs, soit on a un partenariat avec EDF qui nous permet en période hivernale, là où l'eau est moins nécessaire pour produire l'électricité, d'utiliser une partie de cette eau. Voilà, donc on va, c'est le cas à Peyragudes notamment, au Grand Tourmalet aussi. Voilà, ce qui permet de pas non plus... l'idée, c'est pas de créer des grandes retenues comme ça peut se faire dans les Alpes et tout. On a un système un peu particulier dans les Pyrénées. Donc ça, c'est plutôt un avantage.
Et cette eau, finalement, vous la rendez à l'environnement, enfin, au milieu ?
Effectivement, ouais, c'est ce que j'allais dire. L'eau, elle revient dans le milieu naturel. Il n'y a absolument aucun...
Pas d'additif.
Pas d'additif à l'intérieur. Donc elle revient dans son élément naturel quand la neige fond.
D'accord. Ouais. Donc le côté environnemental est plutôt mis en avant chez vous ?
Oui.
Dans les stations des Pyrénées, au moins.
Oui, tout à fait. Et ça ne se regarde pas que par le prisme eau. Ça se regarde aussi par le prisme consommation d'énergie. Puisque cette année, on a investi, alors il y a trois stations qui sont parties là-dedans sur des, on appelle ça, c'est un mot un peu barbare, mais c'est des sous-compteurs électriques qui nous permettent de mesurer l'électricité consommée par chacun de nos appareils, bâtiments et appareils. On sait un télésiège, combien il consomme. Donc on sait qu'à des moments où la fréquentation est très faible, qu'on peut peut-être réduire la vitesse pour pouvoir consommer moins d'énergie. Ça n'existait pas l'année dernière, par exemple. C'est un autre exemple.
Et à côté, c'est l'inflation qui a permis aussi, et l'augmentation massive de l'électricité.
Bah oui, effectivement, avec la crise de l'Ukraine et la crise énergétique, on a notre électricité qui a été multipliée, enfin le coût de l'électricité qui a été multiplié par 10 l'année dernière. Donc il faut bien trouver des mesures aussi compensatoires derrière. Et sur cette idée de compteur à Cotteret, par exemple, on donne souvent cette image. Le fait de réduire la vitesse de la télécabine qui permet d'accéder au LIS, de 2 minutes, on rajoute 2 minutes de trajet, ça permet de consommer 40% d'énergie en moins derrière. Et le client ne s'en rend pas compte. Donc c'est toutes ces petites mesures qui permettent d'avancer à ce niveau-là.
Et est-ce que votre technicité va jusqu'à optimiser justement les vieilles remontées ? Est-ce qu'il y a un travail là-dessus qui est engagé ?
Oui, ça fait partie des réflexions des investissements d'aménagement globaux des stations. Et c'est de dire peut-être que là, j'avais deux téléskis et je les remplace par un tapis qui en plus est plus convenient pour le débutant. Il va plus facilement aller sur un tapis que de prendre une planche de téléski. Hein.
Je vous l'avais confirme vécu aussi. Je l'ai vécu. Ouais. Il voulait pas partir. Voilà. Je devais être crispé.
Il voulait partir sans toi.
Ou alors des fois, moi je me rappelle à l'hôtel ski de l'Aïré à Barèche, c'est moi qui partais avec lui. Et donc voilà, ouais, tout ça s'est réfléchi effectivement dans ce sens-là parce que la crise énergétique est là et il faut en tenir compte.
Le scolaire, il est vrai, vous le disiez tout à l'heure, qu'on a du mal à renouveler un peu les skieurs, vous nous l'avez dit un peu tout à l'heure. Est-ce que aussi faire découvrir la neige à nos enfants pendant leur période scolaire, est-ce que c'est aussi quelque chose de miser sur l'avenir ? Alors, il y a une époque, ça se faisait régulièrement dans les écoles, mais j'ai l'impression que ça se fait un petit peu moins.
Alors si, ça se fait encore. On a un programme en partenariat avec le département 65, qui a la compétence sur les collèges, avec qui on offre en fait 3 sorties de ski à tous les collèges des Hautes-Pyrénées. Alors ça tourne chaque année. Mais on leur offre 3 journées, on leur offre le transport, la location de matériel, les forfaits de ski et les cours de ski aussi, avec un partenariat avec l'école de ski français ou les ESI. Et ça permet de faire découvrir le ski aux enfants. On a aussi une offre au ski club, nous, qui aide les ski clubs, parce que c'est pas les scolaires, mais les ski clubs aussi, oui. ils ont du mal avec l'augmentation du prix du carburant pour faire venir les clubs de Toulouse ou de Pau ou de Tarbes. Donc on les aide, on a une offre spécifique qui fait que les enfants de 5 à 17 ans vont skier à 7 euros seulement. Voilà, donc on met des mécaniques en place pour faire venir les scolaires, les clubs et les jeunes au ski, oui. Ouais.
Notre invité cette semaine, c'est vous, NPI. Quel plaisir de vous avoir, Guillaume Roger. Vous êtes directeur opérationnel pour le groupe NPI. Également vous, Coralie Fontan, chargée de communication. On va parler un peu de trucs un petit peu plus sympathiques. Ce que vous allez proposer, les nouveautés, les animations et puis cette fameuse carte nous aussi. Je me demande si Arnaud Paul, il n'a pas dans la poche, parce que ça fait 2 ou 3 fois qu'il en parle.
Oui, on vérifiera.
À mon avis, il doit l'avoir. Et alors, si vous l'avez, est-ce que vous picorez les stations ou est-ce que vous avez...
Alors, j'essaye. Ouais. Malheureusement, je manque pas mal de temps, mais l'idée en fait, est très séduisante, puisqu'en fait, un des obstacles pour aller au ski, clairement, c'est d'imaginer la queue qu'il y a, faire la queue à la caisse avant de skier. Il faut arriver à la station, se stationner, stationner son véhicule, faire la queue à la caisse, et ensuite pouvoir enfin glisser. Et avec ce type d'initiative, ce type de carte, en fait...
Qu'est-ce que l'offre, en fait, effectivement, la carte nous aussi.
Vous arrivez, ouais. Et vous chaussez, et voilà, vous présentez à la remonte mécanique, et voilà, vous êtes détecté.
C'est quelque chose qui est illimité sur la saison. Comment ça
alors,
se passe
on en parlait
la chargée de communication, elle va nous parler de la carte non souci.
On en parlait tout à l'heure de ce qui a changé justement depuis l'arrivée d'NPI. C'est vrai que c'est le support, principalement le fait d'avoir un support qui nous permet de ne plus passer en billetterie et de d'arriver à la station et de
on est
de,
VIP là
de glisser on se sent un peu VIP, c'est vrai. Et donc l'idée c'est que c'est une carte d'abonnement, donc comme on disait, qui nous permet de skier dans 14 stations, donc de découvrir vraiment toute la chaîne des Pyrénées. Le principal avantage, c'est ça, c'est le passage, on ne passe plus en billetterie, donc le gain de temps. Derrière, on va aussi avoir des réductions. Donc en fait, c'est un peu comme la carte SNCF que vous achetez pour vos grands trajets. Ben là, vous allez avoir, avec cette carte, vous avez des réductions sur vos journées de ski. Voilà. Donc entre moins 15 et moins 30% en fonction de la période à laquelle vous avez skié, que ce soit en vacances scolaires, hors vacances scolaires. Et puis derrière, vous allez avoir comme un système de fidélité. Plus vous skiez, moins vous payez. Donc la 5e sortie, elle est à moins 50%, quelle que soit la station dans laquelle vous choisissez d'aller.
Alors, attendez,
et la 10e est offerte.
J'ai pas tout
donc
compris.
C'est plutôt pas mal.
Excusez-moi, j'ai pas tout compris. On a la carte non souci.
Oui.
Donc elle va permettre d'avoir tout un panel d'avantages et voir des réductions.
Oui.
Mais quand Arnaud Paul dit j'arrive et je vais skier, donc ça veut dire qu'il a réservé avant sa journée sur Internet.
Alors,
comment ça se passe?
En fait, ce qu'il a fait, parce que c'est un très bon élève, oui. C'est qu'il l'a commandé. En fait, en début de saison, en amont de la saison, vous allez avoir des offres pour l'avoir un petit peu moins cher, puisque cette carte, elle coûte 40 euros la saison. Donc quand on dit la saison, c'est hiver-été, voilà. C'est l'année,
puisqu'elle marche
l'été également. Et donc, en fait, vous la commandez avant d'aller skier. Soit vous la récupérez dans le point info de la station dans laquelle vous voulez skier le premier jour, soit vous la recevez à votre maison, chez vous.
D'accord.
Et du coup, elle est déjà... Vous n'avez plus qu'à l'activer en ligne. Il y a une petite manipulation à faire. Et puis après...
C'est comme une carte de crédit.
Une carte à
skiez,
plus.
Vous payez, si vous skiez pas, vous avez.
D'accord,
payé votre
un peu comme le télépéage.
Voilà, exactement.
Donc en fait, vous, une fois que vous avez la carte de souci, vous êtes identifié. Et si je consomme, le jour où vous y allez, vous payez, c'est ça.
Exactement. Et en fait, le système fonctionne que vous êtes débité comme le télépéage.
Moi, je l'ai pas, vous l'avez compris, je n'ai pas la carte de souci.
Bientôt, j'espère. Oui, voilà. Donc voilà, vous êtes débité automatiquement sur votre compte.
D'accord.
Vous avez un compte où vous pouvez suivre toutes vos consommations, toutes vos journées de ski.
Et c'est facturé à la fin du mois ou
exactement, c'est ça.
À la fin du mois, vous êtes facturé. Comme le télépéage, quelque part.
Exactement, c'est
pareil. On paye.
On a un peu piqué l'idée aux ASF à l'époque.
Non, mais l'idée originale. Est-ce que vous avez d'autres propositions, propositions tarifaires, parce que on sait, vous l'avez dit tout à l'heure, votre électricité a été multipliée par 10, parce que bien sûr les entreprises n'ont pas le bouclier fiscal qu'ont eu les particuliers, donc vous avez pris vraiment une augmentation majeure des charges électriques. Est-ce que quelque part l'inflation a une retombée négative sur vous? Ça n'a pas l'air, puisque vous disiez que vous étiez bien sur les vacances de Noël, deux week-ends pas mal aussi en janvier. Là, on espère que vous pensez que vous devez regarder en ce moment la météo avec beaucoup de... vous disiez presque en blaguant tout à l'heure, toutes les heures, vous regardez si les nuages reviennent et s'il y a un peu de neige. D'ailleurs, comment ça va à 15 jours du rush des vacances?
Alors, comme disait Guillaume, on a quand même un réseau d'enneigeurs assez développé dans la majorité des stations. Il y a un gros travail qui est fait par les dameurs aussi, donc pour conserver, pour brasser la neige, pour la travailler toutes les nuits. Tant que la nuit, il fait froid, on peut conserver un bon enneigement. Donc, par exemple, on a la station de Peyragudes qui est ouverte à environ 60-70%. Donc, il y a quand même de quoi faire vraiment dans les stations. Là, c'est sûr que si on a un effet de chaleur et de pluie, ça sera un peu plus compliqué à gérer. Mais pour l'instant, on peut skier dans la majorité des stations et notamment pour les familles, pour les débutants. On n'a pas forcément besoin non plus de 3 mètres de neige pour apprendre à skier. Donc il y a quand même une offre conséquente à prendre en ce moment.
Ce qui vous sauve en ce moment, finalement, c'est les nuits fraîches et froides, c'est ça?
Exactement. Ouais. Il y a un système de réverbération, en fait, et on dame la nuit, donc ça permet de fraiser la neige qui s'est refroidie pendant la nuit, et pour offrir un produit de qualité le matin au client. Ouais. Bon, après ce week-end aussi, il fait grand beau, donc on espère que les gens vont pouvoir profiter, vont pouvoir passer au travers des péages autoroutiers pour pouvoir venir skier. En tout cas, il fait grand beau samedi dimanche, donc on va avoir un bon week-end.
Encore. Alors à la fois, c'est très intéressant, mais c'est fou quand même, on passe de... Est-ce que ça inquiète pas un peu les stations de ski de voir comme ça des vous êtes à 2-3 degrés, 48 heures après, il fait 15-16. C'est incroyable. Est-ce que ça fait peur un peu, ces changements? Je pense que les anciens devaient se dire, avant, il neigeait et puis on avait de la neige jusqu'à au printemps.
Ouais, je ne vous cache pas que le métier d'exploitant de domaine skiable devient un peu sujet à tension de plus en plus. Ouais, non, mais c'est effectivement inquiétant parce que c'est surtout sujet à des énormes variations, comme vous le disiez. Avant, voilà, on avait une grosse chute de neige qui permettait de tenir un petit moment. Là, maintenant, le lendemain, il peut faire 22 degrés comme c'est le cas en ce moment. Et c'est ça qui est compliqué. Alors voilà, la technicité permet de compenser tout ça. Mais je ne vous cache pas que voilà, on réfléchit aussi à d'autres offres, à élargir l'offre autour du ski pour pouvoir compenser ça et pouvoir... rester là.
D'où la notion de station de montagne et de 4 saisons, c'est ça? D'essayer d'étaler, finalement d'attirer la clientèle tout au long de l'année.
Oui, c'est ça, tout à fait. On essaie de réfléchir. Bah, tous les investissements sont pensés en mode 4 saisons pour pouvoir faire du ski, mais aussi du VTT derrière, pratiquer la randonnée en altitude de l'été, etc. On ne va plus faire une remontée mécanique juste pour aller accéder à des nouveaux champs de neige. Ça, c'est plus trop l'avenir. Mais voilà, ça fait partie des scopes d'investissement tous les ans.
On a vu quelques stations cet été qui ont ouvert leur télésiège, par exemple, pour faire des randos. C'est-à-dire que les gens qui n'avaient pas trop l'habitude prenaient le télésiège et puis après allaient se faire une belle balade et redescendaient tranquillement. Est-ce que c'est quelque chose qui... Parce que souvent, bah, voilà, l'été, tout est fermé. C'est un peu ce qu'on réalourde l'hiver, quoi. Et tout est fermé. Et du coup, ça ne donne pas forcément envie de venir consommer de la montagne. Est-ce qu'il y a des changements, là, quand on disait effectivement que la montagne va se consommer pendant les 4 saisons?
Oui, on l'a remarqué depuis quelques saisons maintenant. C'est vrai que... Il y a les gens qui sont sportifs, qui vont faire un col, qui vont pouvoir s'enquiller 1000 mètres de dénivelé, comme Coralie, par exemple, sans aucun problème, voire 2000. Mais il y a des gens aussi qui sont moins assidus à cette pratique. Donc le télésiège ou le télécabine va permettre d'accéder à un point haut, un point culminant, avec un beau point de vue. Et donc il y a cette partie-là. Il y a aussi le VTT qu'on a beaucoup développé, puisqu'on a aujourd'hui 5 bike parks. Donc il y a Peyragudes, il y a le Grand Tourmalet côté Barège, on a Cotteret aussi, il y a Gourette et la Pierre aussi dans les Pyrénées Atlantiques qui offrent une offre VTT intéressante avec des télésièges qui permettent de faire que de la descente en fait et de pratiquer ça de façon très ludique.
Et là sur les bike parks aussi, ce qui est intéressant, c'est que les clients vont avoir une image comme quelque chose de très extrême, etc. Bien évidemment, on a des pentes engagées, on a des sauts, etc. Mais il y a aussi toutes les pistes débutantes pour apprendre à faire du VTT en montagne pour les enfants qui sont vraiment accessibles. Voilà, il ne faut pas le voir comme une pratique non plus trop extrême. Il y a aussi une offre pour débuter, apprendre à faire les virages petit à petit, et ça dans tous les bike parks. Des stations NP. Ouais.
Et d'ailleurs, l'image est renforcée peut-être par l'accueil de compétitions internationales type Coupe du Monde.
Oui, tout à fait, notamment à Peyragudes l'automne dernier, qui a accueilli deux épreuves de Coupe du Monde, une épreuve de descente et une épreuve d'enduro. Et ça a été un succès important, ouais. Ouais, non, c'est bien. Et comme le disait Coralie, c'est vrai que ça fonctionne comme le ski en hiver. Il y a les quatre niveaux de, les quatre couleurs de piste, il y a la verte, la bleue, la rouge et la noire, et on propose ça à nos clients.
Pardon, il y a aussi des développements à l'international, non ? Vous connectez avec l'Espagne, vous commencez, plutôt pour la randonnée, plutôt que pour la descente et l'enduro. Il y a des projets comme ça de connexion ou d'interconnexion, finalement, entre les régions et entre les pays ?
Alors justement, ça se fait au niveau du VTT, notamment à Peyragudes, avec un projet Epoch TEFA, un projet européen qui va permettre de relier en fait la station avec le tout ce qu'on appelle la zone à zéro du côté d'AINSA dans le Sobrarbe, pour pouvoir offrir aux clients une offre encore plus large. Ouais, ça se développe ça aussi.
Ouais, donc c'est une vraie destination Pyrénées dans son ensemble.
Exactement. Finalement. Ouais, tout à fait. Ouais.
On va parler on va arriver presque au terme de notre émission de tarifs. Là, je vois que lorsqu'on va sur votre site, il y a la fameuse carte nos soucis. Hein, et puis il y a ceux qui, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, mais avantage à ceux qui réservent tôt, remise immédiate pour tout forfait séjour de 6 jours acheté sur NPI 15 jours avant. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut anticiper.
Oui, voilà. Ben, en général, voilà, plus on anticipe, mieux on va avoir un tarif plus intéressant. Ça, c'est quelque chose qui se prend uniquement en ligne, bien évidemment. Donc vous vous rendez sur notre site npi.com et puis après, vous pouvez naviguer entre toutes les offres. On n'a pas parlé également, on a une autre offre, la carte Flex, donc, qui, elle, fonctionne uniquement pour les débutants. Et là aussi, c'est pareil, c'est une idée pour niveler les tarifs. Donc, c'est-à-dire que ben, quand on est débutant, on ne va pas, dès le premier jour, aller sur les pistes rouges et les pistes noires.
Non,
donc,
je l'idée, me confirme.
Voilà, c'est compliqué. Ou alors, on a vraiment un don caché. L'idée, voilà, c'est que les stations se sont découpées, grosso modo, en trois zones. La zone tapis, la zone mini-domaine évolution, donc, où à laquelle on va rajouter voilà, un téléski, un télésiège. Et puis après, le grand domaine, l'intégralité de la station. Et l'idée, c'est que le skieur, en fait, il va borner avec sa carte Flex. Donc pareil, il la commande à l'avance, il ne passe pas en billetterie. Et il va payer uniquement la zone qu'il a skiée. Donc s'il passe 3, 4, 5 jours à la zone tapis, ben, il paiera le prix le plus petit, donc la zone tapis. Par contre, si au bout du quatrième jour, il évolue, ben, il aura le tarif enfin du grand domaine, c'est-à-dire l'intégralité de la station. Mais ça permet voilà, de niveler et d'avoir une offre un tarif préférentiel, pour le client débutant, qu'il soit enfant ou adulte.
C'est voilà. Une carte qui coûte 5 euros uniquement. Oui. Et qui est vraiment très apprécié, notamment des moniteurs de ski. Parce que quand vous avez un enfant sur 6 jours qui vient en cours de ski, le premier jour, comme le disait Coralie, il est sur le secteur tapis. Donc, il a acheté avec ses parents un ticket tapis. Mais le lendemain, il a progressé, cet animal-là. Donc, le moniteur, à 9h, avec tous les autres enfants derrière, il est obligé de repasser à la caisse avec l'enfant pour qu'il il achète un autre forfait. Et le troisième jour, peut-être le grand domaine. Donc, c'est très compliqué. Mmh. Et cette carte-là, en fait, on l'achète une fois et c'est magique. On est prélevé sur le compte bancaire comme la carte Nos Soucis.
D'accord.
Et ça permet voilà, de ne pas avoir à repasser à la caisse et de ne pas se préoccuper de ça, en tout cas. Mmh. Se concentrer sur le ski.
D'accord. Et ça donne quelques avantages tarifaires aussi d'avoir cette.
Alors non, pas forcément. Du service, là, c'est pour éviter cette graduation un peu complexe qui fait qu'il faut repasser aux caisses à chaque fois.
Mm-hmm. Ouais. On parlait des animations, mais est-ce que vous organisez aussi le soir pour des animations plus festives quelque part Est-ce que c'est NPI qui organise ou est-ce que c'est chaque station qui a un peu sa liberté et qui peut organiser des soirées un peu festives
Là, pour le coup, ça va être plutôt les stations, même si nous, on organise de temps en temps des événements. Alors que ça soit pour les enfants en journée, les Shoe Pick-up, c'est des petits programmes d'animation, des petits slaloms pour les enfants, ou pour nos abonnés, nos soucis, on n'en a pas parlé, où on a un programme d'animation dédié aux abonnés. Et par exemple, l'année dernière, on a fait une journée, alors c'est sur tirage au sort, une journée entièrement offerte pour une quinzaine d'abonnés, où ils ont fait la visite du pic, la cascade de glace et l'initiation, le restaurant en altitude. Donc voilà, c'est des choses qu'on organise. Après, en général, sur la période des vacances de février, ça va être les stations qui gèrent leur programme d'animation. Et comme vous disiez, le soir, ben voilà, on a des restaurants d'altitude qui organisent des soirées avec des DJ. On a aussi les balades en dameuse qui se font où on monte sur les hauteurs des domaines et puis on peut faire boire un petit coup avec le coucher de soleil. C'est plutôt sympathique. Ouais, voilà, uniquement les clients. Voilà, c'est ça.
On peut faire aussi les descentes au flambeau. Donc finalement, il y a quand même beaucoup d'animations, beaucoup de choses à faire, y compris le soir. Et puis le matin aussi, on peut faire l'ouverture de la station avec les pisteurs. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel à vivre, où on va ouvrir le domaine avant que les clients lambda, entre guillemets, arrivent. On se sent vraiment privilégié. Et là, on voit le lever de soleil et on fait les premières traces. C'est ce qu'on appelle les premières traces.
J'ai vu un reportage à la télé. Dans les Alpes, ça se facture 900 euros. Le fait d'ouvrir les...
Alors là, je vois que le site internet vient de se réouvrir.
Mais à Courchevel, c'est 900 euros pour quelques clients qui peuvent descendre avec les pisteurs avant tout le monde. Quoi.
Je vois une nouvelle case qui vient de se mettre sur NP.
C'est ça.
Moitié prix, 450 euros.
Ouais, voilà.
Merci beaucoup. C'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable de découvrir un peu cette riche idée. En fait, on s'aperçoit que ben, voilà, quand on se fédère et quand on s'entend, eh ben, de belles choses peuvent arriver. NP en est l'exemple. Alors bien sûr, il y a des hauts, des bas, comme dans toutes les familles, voilà, ou dans tous les groupes. Merci d'être venu un petit peu. Bon, on va penser à vous en regardant la météo. On espère, parce que vous me disiez quand même que le ski et cette partie est importante, puisque vous me disiez qu'un euro dépensé dans un forfait, c'est entre 6 et 7 euros dans l'économie de notre région.
Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Quand on sait que nous, on génère 50 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les forfaits de ski chaque saison.
50 millions d'euros.
Ouais, vous multipliez ça par 6. Je vous laisse faire le calcul. Donc ça représente une somme importante. Et c'est le ski est une activité structurante pour les Pyrénées, pour nos vallées. Donc voilà, il faut essayer de faire perdurer ça, quitte à se challenger un peu les esprits pour offrir autre chose que du ski. Et c'est ce qu'on fait enfin en ce moment, en tout cas chez NP aussi.
Et c'est le challenge pour les années à venir, sûrement.
Tout à fait, ouais.
Et le 4 saisons, hein, on consomme aujourd'hui la montagne toute l'année.
Exactement.
C'est un petit peu le souhait. On peut dire que c'est de nouveau devenu un parc d'attractions naturelles, la montagne.
On essaye de tendre vers ça, parce qu'effectivement, en dehors du ski, il y a aussi... la magie de la balnéo dans les Pyrénées, alors thermalisme qui s'est transformé en balnéo, qui est plus ouverte à tous, qui n'est pas que l'aspect médical, mais on a aussi cet atout-là, que n'ont pas d'autres massifs, et ça, c'est, voilà, ça fait partie d'un tout, et les Pyrénées, voilà, pour moi, les Pyrénées, c'est magique, donc il y a plein de choses à faire, et on peut... Alors, par l'attraction, ça a toujours un peu un côté négatif, parce que là, c'est ouvert.
C'est une porte d'entrée, mais les Pyrénées, ça reste quand même un environnement incroyable. Et les Hautes-Pyrénées particulièrement, enfin, tous les sites dont on dispose, le Cirque de Gavarnie, Pont d'Espagne... le Pic du Midi, les classiques des Pyrénées sont ici. Et peut-être que justement, ces stations 4 saisons, ça peut être une porte d'entrée. Et pour ces gens qui ne connaissaient pas la montagne, c'est de débuter dans la montagne. Et après, libre à eux de partir et de découvrir et de monter. Et voilà, c'est intéressant. Il y a une faune incroyable. C'est une montagne éminemment humaine et c'est une montagne qui a un environnement préservé et magnifique.
On sait que Michel Pellieu aime beaucoup le président du département les Pyrénées. Est-ce que le Tour de France, quand il fait ses étapes dans les stations, c'est vraiment aussi pour vous quelque chose d'important et une belle vitrine?
Ah ouais, c'est une vitrine magique et je pense que c'est pour ça que Michel essaie de les faire venir chaque année. C'est vrai que nous, on le ressent au niveau d'ailleurs des réservations, de l'engouement que ça génère à chaque année. Chaque fois qu'il y a une étape qui est programmée sur une de nos stations, on voit les réservations grimper. Et voilà, ça permet de faire découvrir ce que disait Arnaud, voilà, la magie des Pyrénées.
C'est
super. Ouais.
Merci beaucoup. Bon courage à vous, puisque là, il va y avoir du travail pour les quelques jours à venir. Ouais. C'est un peu le rush. Hein, c'est vraiment les vacances par excellence, celles d'hiver, pour toutes les stations des Pyrénées. Merci à vous, Guillaume Roger. Hein, vous êtes directeur opérationnel pour le groupe NP. Coralie Fontan, chargée de communication pour également le groupe NP. Et puis, merci à Arnaud Paul d'être venu jusqu'à nous aussi pour animer et présenter cette émission. À la semaine prochaine.
Merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup.
L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Philippe Subercase.